Bonjour Julien.
Bonjour Julien.
Alors, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de discuter un petit peu avec moi de ton magazine, parce qu'effectivement, c'est ce que tu nous expliqueras peut-être un petit peu tout à l'heure. Tu as fondé un magazine qui s'appelle Sans Transition, donc ça m'intéressait beaucoup, vraiment beaucoup de t'avoir sur ce podcast pour parler de tous ces sujets qui sont un petit peu aujourd'hui au cœur de l'actualité. Est-ce que tu peux, avant qu'on reparle un petit peu plus dans le détail de tout ça, est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire un petit peu d'où tu viens, ce que tu fais aujourd'hui?
Alors, je suis Julien Deséco. Effectivement, je suis cofondateur du magazine Sans Transition aujourd'hui et directeur de la publication. Je suis journaliste. Et puis après, je suis né à Tours, donc je viens de la Touraine, bord de Loire. Et puis j'ai passé beaucoup de temps en Bretagne. C'est là que le magazine d'ailleurs a pris ses racines et là où le siège de l'entreprise et a été bâti. Donc là, on est à Morlaix dans le Finistère. Et puis petit à petit, après moi, j'ai essaimé aussi plutôt dans le sud de la France où je suis aujourd'hui et où on a développé le magazine.
Alors, avant encore une fois de reparler un petit peu de ce magazine, tu peux nous expliquer ton parcours? C'est-à-dire, donc, tu nous dis que tu viens de Tours, tu y restes jusqu'à quand? Voilà, enfin, quelles sont les années qui précèdent?
Moi, j'ai fait mes études à Tours, et puis donc j'ai obtenu le bac à Tours, et de là, je me suis inscrit en école d'ingénieur à Rennes, en Bretagne. C'est là que je découvre cette belle région et le pôle Agro Campus Rennes. Donc là, je pars pour une aventure de 5 ans, une belle formation pour connaître plein de choses, comprendre plein de choses, et avec une formation scientifique aussi, avec cette rigueur qui est importante dans le journalisme également. Je me rends compte petit à petit que c'est pas forcément la voie que j'ai envie d'emprunter, et donc dans mes stages, je commence à bifurquer vers du journalisme agro au début, et puis ensuite, à l'issue de cette formation, j'obtiens le diplôme, et bien je passe aussi le concours d'une école de journalisme de Tours. Et là, j'obtiens aussi ce double diplôme, du coup, qui va me permettre d'avoir à la fois la casquette journaliste. Je précise qu'on n'est pas obligé de faire une formation encore pour être journaliste, même si c'est mieux parce que ça permet d'avoir les clés. Mais en tout cas, moi, j'avais fait ce choix d'essayer, et voilà, j'ai eu la chance de réussir à obtenir ce diplôme. Et à partir de ce moment-là, c'était la recherche d'emploi, comme toutes et tous.
Concrètement, tu as quelques années où tu exerces le métier d'ingénieur agro ou tu switches tout de suite vers la formation? C'est un stage, c'est ça? Qu'est-ce que...
Dans cette formation de 5 ans, il y avait 18 mois de stage déjà. Donc pendant ces 18 mois de stage, on va dire la deuxième partie de l'école d'ingénieur, et c'est quasiment de l'alternance. Donc en 18 mois de stage, j'ai le temps d'en faire et en agro, et ensuite mon stage de fin d'études, je fais 6 mois aux éditions du Bois Baudry à Rennes, qui est un groupe de presse spécialisé en agriculture. Et donc j'écris des articles dans différents canards du groupe, et j'apprends le métier, quelques rudiments, on va dire. Je m'exerce aussi, et je vois aussi que c'est pas simple l'exercice d'un métier dans un secteur aussi spécifique, et avec des contraintes aussi propres à la presse spécialisée, qui est pas forcément celle dans laquelle j'avais envie d'exercer, mais c'était très très instructif.
Mais qu'est-ce qui t'emmène à faire ce choix justement d'une école d'ingé agro? C'est une sensibilité familiale, c'est...
Oui, peut-être être né à la campagne, peut-être le goût de la nature, l'agro. Il y avait cette envie de travailler au début en plein air, peut-être. Et au final, dans les entreprises d'agro, il y a peu de gens qui, à part si les agriculteurs, mais il y en a de moins en moins qui vraiment travaillent en plein air. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait la biologie, les sciences de la nature, comprendre son environnement. Et ça, moi, c'est ce qui m'a animé ensuite. Donc, il y avait toutes ces envies-là. Et puis, quand on a 18 ans, on ne sait pas, donc on tâtonne, on essaye.
Et qu'est-ce qui t'emmène alors, d'après toi, enfin, je ne sais pas si c'est une question que tu t'es posée, j'imagine, Qu'est-ce qui t'emmène à choisir plutôt la voie du journalisme? Est-ce que c'est le goût d'écrire? Est-ce que c'est
Oui, le goût d'écrire est une des dimensions, l'envie de rechercher des informations vérifiées aussi. L'agro est un des secteurs où il y a aussi beaucoup d'informations biaisées. Et c'est très intéressant d'aller chercher des informations. Et là, on est vraiment dans le métier de journaliste aussi, hein. Recouper les informations, croiser les sources, avoir un esprit critique. Et c'est aussi la formation d'ingénieur d'ailleurs. On nous apprend à ça. Même si après, on nous demande d'être des bons petits soldats aussi dans les grandes entreprises. Donc, c'est ce paradoxe-là, moi, que je n'ai pas voulu assumer. Et en plus, j'avais ce goût de l'écriture, effectivement, qui est venu trancher.
Et alors, tu parlais, ça m'a interpellé, tu parlais d'informations biaisées dans le monde de l'agriculture. C'est quoi? C'est une question de lobby? Enfin, de quel biais tu parlais?
Alors, j'ai pris ce secteur-là parce que je connais bien. En ce moment, par exemple, en Bretagne, il y a une pétition de journalistes qui circule sur la difficulté d'informer dans l'agroalimentaire. Donc, qui est remontée jusqu'au président de région, etc. Donc, et c'est la première région agroalimentaire de France. Voilà, tout est dit. C'est compliqué, il y a des gros enjeux, voilà, c'est très très compliqué.
Qu'est-ce qui t'emmène, au-delà de ce choix donc, d'aller vers le journalisme, qu'est-ce qui t'emmène à un engagement un petit peu plus affirmé autour des notions de transition?
Au moment où je fais mon école de journalisme, on est en 2003-2004, eh bien, on voit bien monter déjà les prémices des enjeux autour du changement climatique. Ce sont les premiers, il y en avait déjà eu avant, mais c'est les premières tentatives de vulgarisation vraiment au grand public. Et moi, j'arrive aussi avec ces connaissances scientifiques et cette envie d'aller rechercher des informations autour de tous ces sujets, de la consommation responsable, autour de l'environnement et de la science. Et c'est pour ça que j'ai fait des stages aussi dans des revues comme 60 millions de consommateurs, déjà, et puis aussi dans des revues comme Science Frontières. Ça m'a beaucoup appris, puisque même après, j'ai été embauché en CDI là-bas. J'ai même été rédacteur en chef de la web télévision de ce magazine. Et là, on est vraiment sur cette idée d'informer avec une ligne éditoriale qui veut montrer scientifique et qui veut éclairer, vulgariser autour de tous ces enjeux de science, d'environnement, de biodiversité. Donc, il y avait un goût. Et puis après, c'est la rencontre aussi avec des médias, avec des gens. Bon, j'ai cherché aussi, j'avais envie d'aller là-dedans, c'est sûr. J'ai pas écrit sur les banques dans 60 millions de consommateurs, j'ai plutôt écrit sur l'écologie.
Très bien, très bien. Alors je me rends compte de quelque chose, c'est que je n'ai aucune idée des périodes dont on parle en fait. Quel âge tu as toi aujourd'hui? Alors,
moi aujourd'hui j'ai 40 ans. J'ai 40 ans, ça fait donc près de 15 ans que je suis journaliste aujourd'hui.
15 ans que tu es journaliste. Qu'est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce parcours de journaliste?
Alors, les premières années, j'ai donc les stages, déjà, je les ai évoqués hein, tout à l'heure. Hein. 60 millions de consommateurs, Cuisine et Vins de France, Sciences Frontières, les éditions du Bois Baudry, ça c'est côté stage. Ensuite, j'ai travaillé aussi près de Lille, dans une entreprise d'édition qui faisait de la presse spécialisée, notamment dans le diagnostic immobilier. Donc, c'était intéressant parce que c'était un nouveau métier qui se créait. Et là, on est déjà aussi dans l'écologie parce que diagnostiquer une mauvaise qualité de l'air, de l'amiante, des problèmes, notamment environnementaux dans une maison, dans un bâtiment, c'était assez intéressant comme expérience. J'ai travaillé 9 mois là, dans cette maison d'édition. Et puis ensuite, j'ai eu une proposition de CDI assez rapidement. J'ai eu de la chance parce que c'est pas simple d'être pigiste, surtout quand on commence, c'est difficile. Du coup, là, j'ai pu avoir cette expérience chez Science Frontières, qui est un festival qui a été créé par Jean-Yves Casga, qui était journaliste chez RFI. Et là, je suis resté plusieurs années. Hein. C'est un festival qui a eu lieu à Marseille, dans le sud de la France, avec 30 000 personnes chaque année pendant une semaine pour découvrir toutes les initiatives sur l'écologie, l'environnement, etc. etc. Donc déjà bien baigné là-dedans. Et ça a nourri mon envie de travailler sur ces thématiques, forcément, puisque en parallèle de ce contrat à durée indéterminée, moi j'étais toujours pigiste, je gardais quand même une petite partie pige pour des magazines comme Valeurs Vertes, notamment, qui est un journal sur le développement durable. Et puis, même 60 millions de consommateurs, pendant longtemps, j'ai été pigiste, ou même aussi l'hebdomadaire Réforme. Donc, tout ça en même temps, ça a permis d'avoir une certaine expérience.
Et pendant toute cette période-là, donc tu es basé où, toi, hein? Quand tu bosses par exemple sur le festival, tu es à Marseille?
J'étais à Paris d'abord quelques années, donc voilà, la Bretagne au début, Lille ensuite, Paris, et puis même Marseille avec le festival. Après, je suis resté quelques années à Marseille en télétravail pour le même projet, avant de revenir, et là c'était la création du projet qui s'appelait pas Sans Transition au début, et là c'était à nouveau en Bretagne.
D'accord. Donc tu bosses pour le festival quelques années. Et comment arrive cette idée et cette envie de créer un magazine?
C'est une longue histoire, mais pour la faire courte, voilà, c'est la Bretagne, une région que je commençais à bien connaître, hein, pour y avoir fait mes études. Donc on rencontre des amis, voilà, c'est l'histoire personnelle qui rencontre l'histoire professionnelle. Et puis cette envie d'aller en Bretagne, de faire encore un petit bout de chemin là-bas. Et puis une rencontre aussi, puisque j'ai cofondé le magazine avec Magali Chouvion. Et donc, on a eu qui elle a été à l'époque chargée de communication pour l'association Bretagne Vivante, qui est la plus grosse association de protection de la nature en Bretagne, 3 000 adhérents. Et on a donc cette vision commune de créer un magazine dédié à l'écologie en Bretagne, qui s'appelait, ça c'était il y a 11 ans, Bretagne Durable. Bretagne durable, c'était fin 2008, début 2009, donc oui, c'est ça, un peu plus de 11 ans, 11 ans et demi maintenant.
Et ça, cette envie-là, elle naît quoi? D'une carence? C'est-à-dire, vous faites le constat qu'il n'y a pas de magazine en Bretagne sur ces sujets-là, ou c'est parce que vous avez envie de passer un message un petit peu spécifique?
C'est les deux, et puis c'est aussi peut-être l'envie de voler de ses propres ailes aussi, c'est tout ça ensemble, c'est un moment de vie. Donc on monte une association, puis on rencontre d'autres personnes, parce que il n'y avait pas que nous, on était les cofondateurs. On avait cette idée de créer une association Bretagne Durable pour explorer les initiatives en faveur du développement durable et solidaire en Bretagne. Et donc on rencontre plein de gens, parce que c'est une région où il y a énormément d'associations et d'acteurs qui travaillent historiquement sur ces questions. Et donc il y avait un florissement d'initiatives dont peu de gens parlaient finalement. En tout cas, qui était pas mise assez en avant selon nous. Et donc, on lance ce trimestriel d'abord, et même avant de lancer un trimestriel, on le lance uniquement sur Internet. C'était une plateforme pure player, 100% web, juste après Mediapart, là. C'était dans les mêmes périodes. Je crois que c'était un an après. Il y avait Terra Echo qui était également sur le web à l'époque. On était.
Comment concrètement ça se passe pour toi? Tu prends cette décision? Est-ce que tu bosses en parallèle et tu crées un site web, tu lances le truc sur le web? Est-ce que tu déménages tout de suite en Bretagne et tu te dis j'y vais à 100% et tu commences à rencontrer du monde et à alimenter le contenu? Enfin, très concrètement, là, comment tu te lances dans l'aventure?
À ce moment-là, j'ai la chance d'être encore un peu en télétravail, donc je peux bosser de la Bretagne. Ça, c'est le premier point pratique. Et puis ensuite, après, je trouve un boulot en Bretagne aussi, concrètement. Et ça m'a permis, dans une association de protection de l'environnement également, ça m'a permis, alors je reste un peu moins d'un an, mais du coup, je rencontre plein de gens, et je valide aussi cette idée-là du projet dont on est en train de parler. Et on se dit, oui, effectivement, ici, il y a vraiment plein de choses, il faut le faire. Et après, dans le comment on fait, après on crée une association, on est 10 dans le conseil d'administration, des gens de différents horizons, différents départements de la région, pour essayer de trouver des équilibres, à la fois dans le social, à la fois dans l'écologie, à la fois dans l'économie, essayer d'être sur les piliers du développement durable, et puis il faut de l'argent. Alors après là, on monte un projet Défi Jeune, c'était à l'époque. Donc là, on est allé chercher quelques milliers d'euros pour avoir notre projet été sélectionné comme projet d'intérêt par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc il y a des relais en région. On a dû avoir un coup de pouce, est-ce que c'était au début, Fondation Nicolas Hulot, je ne sais plus. Enfin voilà, on a eu la région qui nous a soutenus. Enfin, on s'est bougé, quoi. On s'est bougé pour aller chercher des sous, parce que ça ne tombe pas du ciel aussi.
Et vous allez chercher donc des sous, des subventions, du concours. Et le modèle, c'est que vous envisagez, c'est quoi? C'est un modèle publicitaire pour vous financer à terme? Comment est-ce que vous projetez à l'époque?
Non, non, pas du tout. Au début, on est vraiment sur de la subvention, de l'association classique, avec à terme un petit peu d'autofinancement, parce que déjà en 2009, je pense qu'on est les collectivités demandent 10 ou 20% d'autofinancement. C'est la fin de la période faste des associations. On est déjà dans cette période-là. Et donc face à ce contexte, parce qu'on voulait aussi avoir une ligne éditoriale vraiment indépendante, on reste sur les subventions. Mais on se rend compte que c'est pas si simple, que c'est précaire, que c'est compliqué, et puis que même ça garantit pas forcément une indépendance éditoriale, parce que quand on a la région, le département qui donne X milliers d'euros, des fois ils peuvent nous demander des comptes. Ça veut rien dire, ça. Donc, même si on peut leur dire merde, c'est pas forcément un problème, mais avec des conséquences après qu'il faut assumer. Donc, j'essaie de casser le mythe des gentilles associations et des méchantes entreprises, quoi. Pour avoir fait les deux, c'est beaucoup plus complexe que ça.
D'accord. Et du coup, comment est-ce que vous gérez ce paradoxe ou cette contrainte?
Ouais, plutôt une contrainte. On arrive à aller chercher les subventions nécessaires pour avancer. C'est l'époque des emplois aidés aussi, grassement aidés. On a profité. On crée un emploi. Moi, je commence en contrat aidé. Ensuite, on en crée un deuxième, puis un troisième. En 2-3 ans, on est 4-5 hein, dans la structure quand même.
Ok, 4-5 à temps plein.
Okay, pas forcément à temps plein, mais au moins à mi-temps, 80%. Quoi.
Top, top. Et à quel moment? Donc, ça commence sur le web?
Pendant 2-3 ans, ça commence sur le web. Oui, voilà, exactement, bretagnedurable.info. On marche bien en plus, il y a des bons retours. On est les premiers à être en 100% web sur ce format média régional engagé. Il y en avait quelques autres qui existaient, mais uniquement sur le papier. Et puis même ceux qui existaient sur le papier, finalement, quelques années après, n'existeront plus du tout, malheureusement. Et nous, sur le web, on n'a pas réussi à trouver notre modèle économique. Peut-être c'était trop tôt. Peut-être c'est vraiment compliqué. On ne voulait pas mettre de la pub sur le web. Et bref, on n'y arrive pas. Et à ce moment-là, on arrive à la conclusion que ce serait quand même chouette de garder à la fois, certes, le web, mais en même temps de monter un média papier trimestriel qui serait le pendant du web et donc d'être sur un bimédia. Cette idée d'explorer les innovations, mais surtout de mettre en avant les éco-bretons, c'est comme ça qu'on les appelle, ces bretons qui travaillent en faveur du développement durable et solidaire sur leur territoire, et bien, ça peut passer par le papier, avec plein de rubriques pratiques. Enfin voilà, donc on imagine un format, on construit quelque chose de manière collective avec tout le conseil d'administration, et est né le magazine papier, je crois que c'était en 2011, fin 2011, magazine papier Bretagne Durable Magazine.
Et comment il est financé alors ce papier? Parce qu'effectivement, je l'ai sous les yeux, là, je suis en train de le parcourir. Ah, il y a un peu de pub quand même, ouais.
Alors, c'est ça, c'est que. Donc, on a quelques pages de pub qui viennent effectivement asseoir le modèle économique. De fait, on n'a plus de subvention, ou une petite part, quoi, vraiment qui reste faible. Donc, on bascule dans notre modèle. Donc, on recherche. Des annonces aussi. Mais par contre, dès le début, on a fait aussi ce choix d'avoir une charte éthique et de ne pas avoir n'importe qui comme annonceur. Quoi. On ne voulait pas être une plateforme de greenwashing, ni un site, ni une revue de greenwashing. Quoi. C'était vraiment. On assumait la pub, mais pas n'importe quoi, quoi. Et pas n'importe comment.
Et justement, alors, c'est quoi vos critères? Comment est-ce que vous choisissez, acceptez ou refusez une publicité?
Alors, on n'a pas le droit de refuser une publicité, ça c'est un premier point, c'est un refus de vente. La loi nous l'interdit. Mais bon, on peut ne plus avoir de place dans le magazine. Ça, après, c'est une autre façon de faire les choses. Mais en tout cas, ça nous permet de diviser aussi. C'est-à-dire qu'avant de répondre à la question, quand on a 50 annonceurs différents, c'est beaucoup plus simple à gérer finalement que d'avoir 3 collectivités qui vous donnent des subventions. 50 vs 3. Ce 50, s'il y en a un qui vous claque dans les doigts, il en reste 49. 3, il y en a plus que 2. C'est déjà compliqué. Donc c'était une façon de diviser pour mieux régner. Et régner sur quoi? Sur notre ligne éditoriale. Et c'était ça, régner pour ne pas rogner. Moi, c'est ce que je disais. C'était un point important. Et donc, oui, il y avait de la pub. Oui, alors pour certains, c'est mal. Pas de souci là-dessus. Hein. Nous, on a pris, on a assumé ça parce que voilà, on y a trouvé notre compte sur l'indépendance et qu'on a aussi trouvé des belles boîtes avec lesquelles on a coopéré, quoi. En tout cas, BioBrice, par exemple, d'ailleurs, ils sont toujours annonceurs dans nos pages, ça fait 10 ans. C'est des agriculteurs bio, ils sont chez Biocoop, ils sont coopératives, franchement, ce qu'ils font, c'est top, quoi. Donc, moi, je suis content quand on a des boîtes comme ça dans nos colonnes, parce que eux aussi, ils participent à la transition. Voilà. Donc, cela, oui, c'est avec fierté. C'est sûr qu'on n'a jamais eu des boîtes comme Total, comme et autres dans nos pages, hein, ça, c'est sûr. Je dis pas qu'on s'est jamais planté, hein, mais on a été hyper vigilant pendant 10 ans.
Quand vous créez ce magazine, donc là on a parlé un petit peu du choix entre guillemets des annonceurs, mais le contenu en lui-même, comment vous faites le choix du contenu d'un magazine comme ça?
On est toujours associatif à l'époque. On a un conseil d'administration qui se réunit et qui fait les sujets du magazine. Voilà. Donc les membres du conseil d'administration se transforment en membres d'une rédaction, en tout cas à laquelle on associe les journalistes salariés, bien sûr, pour pouvoir avoir un maximum d'idées, parce qu'en plus chacun est sur des territoires différents, donc remonte des informations de tous les territoires, et donc est un peu une sentinelle aussi sur son territoire.
Alors génial. Alors toi, par exemple, très concrètement, toi, comment est-ce que tu te, je sais pas, comment est-ce que tu te nourris, comment est-ce que tu trouves les idées de contenu?
Moi, je suis un très grand lecteur de journaux, hein, bien sûr. Déjà, donc là, c'est sûr, hein, tous les matins pendant 1 heure et même midi. Enfin, je lis tous les journaux et vraiment, je me nourris énormément. Et c'est vrai que j'ai tout le temps le cerveau branché pour penser à des idées en permanence de sujets. J'ai cette mécanique qui tourne en permanence. Donc, ça tourne tout le temps. Et puis, ben, je suis pas tout seul. Heureusement, on est plusieurs. Et en plus, on s'enrichit les uns les autres. Maintenant, il y a des pigistes qui nous ont rejoints dans l'aventure, qui apportent leurs idées. Donc, tous ensemble, on arrive à avoir une énergie collective chouette.
Et ensuite, du coup, donc tu nous as parlé un petit peu du côté breton du magazine, mais effectivement, nous, on est basé en Occitanie, à Nîmes, et je l'ai trouvé dans une biocoop à Nîmes. Donc, à partir de quel moment vous commencez à aller sur d'autres territoires?
Donc là, j'étais en 2011 où on avait créé la revue papier. Donc on fait 2-3 ans comme ça, en 2013-2014, je sais plus. Et à ce moment-là, on se dit, parce qu'on voit que le modèle économique est limite encore. On est toujours dans cette quête, hein, de chercher un modèle économique et social, bien sûr, serein au sein de la structure. Et on voit que c'est juste. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et aussi parce qu'on tourne un petit peu, peut-être. On se dit, mince, ça fait déjà 5 ans, on a exploré plein de choses. On regarde sur les autres territoires, on voit que ça n'existe pas en Provence. Magali Fouvion, l'autre cofondatrice, vient de PACA et elle nous dit, franchement, il se passe plein de choses aussi, quoi. On aurait vraiment intérêt à essaimer et à faire Provence durable. Et on se dit, bah, pourquoi pas, quoi. Et là, bah, Bretagne durable, SM, et devient également Provence durable. Donc là, c'est nouveau volet qui va durer 2 ans de plus quasiment. Et pendant 2 ans, bah, même modèle, même logique. Donc ça, c'est chouette. Et c'est là qu'on décide de passer d'une association à une SCOP aussi, une coopérative. Parce que en termes de gouvernance, c'est vrai qu'on commençait à devenir un média avec beaucoup de contenu, avec pas mal de sujets, et la gouvernance associative était trop lourde. Une coopérative, le média appartient à ses salariés, c'est plus simple et plus réactif. Et à ce moment-là, on a fait un diagnostic DLA, on appelle ça comme ça, pour savoir quelles étaient les bonnes options, et on conclut que créer une SCOP, c'est la bonne option. Et c'est ce qu'on s'attelle à faire, donc avec au moment à peu près au moment de Provence durable. Nous sommes aujourd'hui une SCOP, la Maison des Possibles, c'est son nom, qui édite donc le magazine désormais sans transition, puisque donc Bretagne durable, Provence durable. Alors, au bout de 2 ans de Provence durable, en fait, c'est aussi le moment où le mot durable commençait à être galvaudé. Là, on a senti de manière forte que c'était repris de plus en plus par certaines entreprises, justement pour du greenwashing, et ça commençait à nous gêner vraiment fortement. Et c'est là qu'on s'est dit, il faut qu'on change, ça convient pas. Et c'est aussi au moment où toutes les régions sont redécoupées à la hache sur un coin de table avec Manuel Valls, je ne sais pas si vous vous souvenez, et François Hollande. Et donc, et nous, on envisageait aussi d'essaimer dans une troisième région qui est devenue l'Occitanie. Et je me rappelle du débat très, très houleux à l'époque sur est-ce que ça va s'appeler Occitanie ou pas, Pyrénées, machin, etc. Du coup, c'était devenu un panier de crabes aussi, ça. Et pour toutes ces raisons, on décide de. Donc, on se met à nouveau en réflexion et on cherche un autre nom. Et le mot transition apparaît rapidement comme un mot-clé et aussi le mot engagé. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix de s'appeler Sans Transition. C'était le clin d'œil aussi à PPD dans la Marguerite des Guignols de l'info. Et aussi avec cette logique de phrases très journalistiques. Donc on voulait vraiment être identifié comme un magazine. Et le point d'exclamation, parce que bon, la transition, c'est sympathique, mais on peut transiter pendant un millénaire. Nous, ce qu'on voulait, c'était proposer une revue qui transite ici et maintenant. Voilà, voilà le
Un
lot.
sentiment un petit peu d'urgence, enfin
C'est ça.
d'action.
Oui, c'est ça. Ça se passe ici et maintenant. Et donc, sans transition, avec sa déclinaison sur les territoires, Bretagne, Provence, Occitanie, et depuis près d'un an et demi maintenant, Auvergne-Rhône-Alpes.
Ok, avec une ambition de d'être présent vraiment dans toutes les régions à terme, ou ça se fait de manière incrémentale, sans qu'il y ait vraiment de plan ou d'ambition particulière derrière?
C'est pas le mot ambition qui est bon, je crois, c'est que c'est toujours cette recherche aussi du modèle économique, hein, comment on avance, comment on essaie de payer au mieux les gens qui bossent dans la structure, comment on essaie de trouver un équilibre entre vie perso, vie pro, et en même temps de proposer un projet le plus cohérent possible. C'est ça qui nous anime. Donc oui, l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est quand même une des régions de France les plus investies sur ces questions. On aurait pu commencer par là-bas. J'ai envie de dire, elle était aussi en avance, si ce n'est plus, que la Bretagne sur les solutions de transition. Donc c'est assez logiquement qu'on a voulu y aller, en fait, parce qu'on recevait plein de choses de la Drôme, l'Ardèche, le Rhône, etc. Donc voilà pourquoi on est allé là-bas. Et après, est-ce qu'on va continuer sur les régions? Je ne sais pas, c'est assez fastidieux, c'est assez lourd, ça coûte cher. Ça, on verra. C'est une décision collective qui sera, je sais pas.
Et aujourd'hui, alors en quelques chiffres, entre guillemets, sans transition, c'est combien à peu près de magazines qui sont distribués? C'est combien de personnes qui y bossent?
Sans transition, c'est près de 10 personnes qui travaillent à temps plein. C'est trois bureaux, un à Morlaix dans le Finistère, un à Malocène, pied du Ventoux en PACA, et un à Montpellier, au Pôle Réalis en Occitanie. Donc on essaie aussi de s'ancrer sur les territoires, d'y vivre. Si c'était ça aussi, cette logique d'être sur les territoires. C'est pour ça qu'on ne va pas non plus hyper vite, au-delà de l'argent. Il y a aussi cette idée une certaine idée de faire les choses, quoi. Donc, c'est aussi 10 000 exemplaires environ diffusés par région tous les 2 mois, donc 6 numéros par an. 30 000 visiteurs uniques sur Internet chaque mois. Et maintenant, une vingtaine de conférences par an aussi sur les territoires. Ça, c'est devenu notre axe fort. Là, on avait des conférences avec Pierre Rabhi, Rob Hopkins, Charles-Hervé Gruyer, Jean-Louis Etienne, Boris Cyrulnik, etc.
Top. Juste une petite question. Tu nous as parlé effectivement du titre, sans transition. Tu nous as parlé du point d'exclamation. Tu nous as parlé de la notion d'engagement. Donc, effectivement, quand on regarde votre revue, il y a écrit sans transition, la revue engagée du local au global. La question, le mot global, il m'interroge un petit peu. Autant le local, ça me semble une évidence, tu en as parlé. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu dire par engagé du local au global?
Il y a cette fameuse phrase "penser global, agir local" de René Dubos, qui donne du sens, je trouve, à ce qu'on appelle le développement soutenable, durable, solidaire, la transition aujourd'hui. Et donc c'est pour faire écho à cela qu'on a appuyé sur local et global. C'est-à-dire, on pense peut-être, on peut agir près sur sa zone d'influence, comme dit Jean-Louis Etienne, près de chez soi, dans sa famille, etc. Mais ça ne nous empêche pas d'être un citoyen du monde, d'agir, de penser globalement. Et c'est les deux en même temps qui font cette idée de la transition. C'est à la fois parce qu'on est connecté aux autres, l'autre, vraiment tous les autres, et en même temps parce qu'on est près de chez soi, à 20 km d'un paysan bio avec qui on a sympathisé parce qu'il fait des super céréales, par exemple, ou un super fromage ou un super pinard.
Ouais, d'accord. Ok, c'est pour reprendre cette idée-là, quoi, de l'impact global de d'action qui commence au niveau local, d'une certaine manière.
Oui, ou l'inverse. Regarde le coronavirus.
Tu as évoqué tout à l'heure une notion qui m'interpelle beaucoup. Je crois que tu l'as même utilisé plusieurs fois, ce terme-là de greenwashing. Et derrière, quand tu me dis greenwashing, avec ces grosses boîtes qui effectivement se mettent à afficher, alors uniquement par de la com ou par quand même des investissements ou des actions dans le domaine de l'écologie, la question que j'ai envie de te poser de manière un petit peu directe, c'est finalement, est-ce que c'est mal? Je veux dire, est-ce que c'est mal que pour des raisons peut-être d'affichage de com, des entreprises comme Total se mettent à investir dans les énergies vertes?
C'est mal quand c'est faux. Et c'est là la subtilité. C'est-à-dire que, ou alors, quand je dis c'est faux, c'est quand Total dit on investit vachement dans la transition, plein d'éolien, plein de ceci, plein de cela, et quand 90% de son chiffre d'affaires reste sur l'hydrocarbure. Ça, c'est faux. Donc, c'est faux quand BNP dit l'économie sociale et solidaire, génial, machin, etc., alors que ça représente epsilon de son chiffre d'affaires par rapport, et aussi sur ses investissements dans les hydrocarbures, qui sont juste encore scandaleux. Donc, c'est ça qui est dérangeant. C'est pas quand, c'est-à-dire que c'est faux au regard du reste. Et c'est toute la subtilité du greenwashing, c'est de donner une information vraie, mais qui représente epsilon dans une activité globale, qui, elle, contredit complètement cette information. Là, ça me dérange. Alors, pour le reste, absolument pas. Je serais ravi que Total fasse vraiment la transition. Et d'ailleurs, comment imaginer qu'on puisse la faire sans eux? Vraiment. Il faudra bien qu'ils se bougent. Et ils le savent, mais ils vont attendre le plus longtemps possible. Donc, parce qu'il y a plein d'actionnaires, parce qu'il y a, voilà, y a tout ça derrière, il y a toute la grosse machine, et puis parce qu'on va prendre, ils veulent prendre tout ce qu'il y a à prendre le plus longtemps possible. Mais voilà, on sait comment ça fonctionne. Maintenant, faut pas se laisser avoir. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Sans tomber dans la théorie du complot, non plus, parce que ça, c'est un autre problème encore.
Ok, donc il y a absolument pas d'opposition parce que bah tu es un ingénieur, moi aussi, et c'est une question que je me pose suivante. Il y a absolument aucune opposition au sein de Sans Transition entre le progrès technologique et la transition écologique Enco. Non, vous n'avez pas ce genre de
L'idéologie, non. Si, qu'il y ait des débats, c'est logique, mais il n'y a pas d'opposition idéologique. Le progrès, alors attention à ce qu'on met derrière, mais technologique, c'est pareil, c'est à discuter à chaque fois parce qu'il y a plein de bémols, mais en tout cas, pas d'opposition idéologique, non, sûrement pas. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique aussi. À un moment, c'est qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui apporte le plus de choses positives, voilà, mais pas à n'importe quel prix non plus, quoi. Donc, c'est les équilibres, et ça, c'est vraiment un mot également très important dans la transition.
Et il y a un truc que je me dis souvent, j'aimerais avoir un petit peu ton opinion sur le sujet, c'est que, tu sais, quand on aborde ces sujets-là, d'écologie, problèmes environnementaux, ça vient très souvent avec une notion de contrainte, avec un discours un petit peu anxiogène, de peur. Et finalement, moi, le sentiment, si tu veux, qu'on ne peut amener des changements comme ça qu'à partir d'une énergie plus positive, de quelque chose de plus motivant.
Par nature, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop les contraintes, de base. Après, je crois que je suis pas le seul. On est nombreux. Je pense que c'est pas par la contrainte qu'on va amener les gens à s'engager. Alors, je dis pas qu'il en faut pas ou jamais. Je dis que c'est vraiment pas la clé d'entrée. La clé d'entrée, alors, sans tomber dans le désir d'avenir ségolien, c'est plutôt effectivement quand même donner envie. Donner envie, donner à voir, inciter, c'est plutôt ces clés-là, me semble-t-il. Inciter fortement, même. Et puis montrer que ça marche surtout, quoi. Montrer que ça marche, que ça percute, que ça crée de l'emploi, que les gens sont mieux. Enfin, voilà, c'est l'humain qui est au centre de tout ça. Donc, il ne faut pas l'oublier quand l'agriculteur et quand certains lobbies agricoles parlent de contraintes environnementales en pleine crise du Covid et qu'ils essaient de raboter encore sur les pesticides, etc. Là, on est dans l'exemple parfait de tout faire, de comment un lobby tente de tout faire pour ne pas changer le plus longtemps possible parce que, parce qu'il gagne quelque part. Donc, mais tout en sachant qu'il ne pourra pas y échapper. Et c'est toute cette complexité-là. Alors, comment on fait pour empêcher la FNSEA d'arrêter de pleurer et de dire les pesticides, machin? Ben, à un moment, effectivement, peut-être que faut dire stop. Alors voilà, pas n'importe comment, ça se demande de l'accompagnement, la transition. Ah oui, forcément, on passe pas avec un pulvérisateur à des outils bio comme ça en claquant des doigts. Hein. Ça s'accompagne, il y a de la formation, il y a de l'incitation, il y a des aides, il y a du partage d'expérience. Oui, on passe pas du nucléaire aux ENR. Le gars, il est dans sa centrale, demain, il est sur un pylône d'une éolienne. C'est pas le même boulot, hein. Mais ça s'organise.
Pour revenir encore, parce que c'est vraiment moi, alors c'est très personnel, mais c'est vraiment une question qui me travaille beaucoup, entre guillemets, c'est vraiment ce rapport entre le progrès, la technologie et l'écologie. J'ai quand même l'impression qu'il y a quand même un petit peu, si on schématise beaucoup, deux types de, si tu veux, d'écologie. Il y a l'écologie qui nous invite d'une certaine manière à une forme de décroissance ou en tout cas de retour à des choses sans technologie. D'accord, on va te parler de tiens de en tout cas de technologie au sens technique, tu vois, informatique, électronique and co, là, qui va nous dire bah tiens, il y a peut-être des techniques effectivement d'agriculture, de permaculture, de choses simples, il y a peut-être un moyen de consommer moins de viande, il y a peut-être tout ça. Et puis à côté de ça, tu as aussi des choses incroyables qui se passent dans le domaine technologique, comme par exemple, je sais pas, moi je vais te dire de manière un peu schématique, d'ailleurs ça m'intéressait de savoir ce que tu en penses, quand Tesla. Elon Musk, là, ce mec un peu perché dans la Silicon Valley, lance ses premiers roadsters Tesla il y a quelques années, ça commence à faire pas mal de temps, qui s'adressait à une population très aisée en Californie, qui coûtait une blinde, mais qui finalement a démocratisé et a incité tous les constructeurs à accélérer le mouvement vers l'électrique, avec des annonces qui commencent à tomber de batteries où il y a moins de métaux rares, où finalement on s'aperçoit que le bilan écologique est quand même meilleur sur un véhicule électrique et va être de mieux, tu vois, de plus en plus intéressant par rapport au véhicule thermique.
Oui, non, non, mais c'est clair, il y a ces deux tendances-là. Est-ce qu'elles sont réconciliables? Pas sûr. Effectivement, il y a, pour schématiser, il y a côté retour à la terre, Pierre Rabhi, faire son jardin, plutôt non, pas de technologie ou à minima, en tout cas. Vraiment, la technologie est en retrait par rapport aux solutions pour sauver la planète, si je veux schématiser très vite. Et puis effectivement, il y a ce côté techno complet à l'autre, aux antipodes, où on va voir le paysan bio guidé par satellite, son tracteur quoi, qui tourne avec des panneaux quoi. Je la fais simple aussi, mais c'est un peu. Et je suis pas sûr que ça puisse se réconcilier, non. Ces deux mondes, c'est pas la même philosophie derrière.
Exactement. Et comment vous positionnez au sein de Sans Transition? Est-ce que c'est un débat que vous avez? Est-ce que vous abordez des sujets très technologiques?
Ça nous arrive. C'est pas forcément notre entrée principale, mais ça, en tout cas, on n'est pas du tout fermé. Chez Sans Transition, vraiment, on n'a pas enfin, d'idéologie là-dessus. Pour moi, en tout cas, à titre perso, ce qui est vraiment important, c'est que parfois la solution est technologique, parfois la solution, elle est scientifique, elle est humaine, elle est sociale. Enfin, tu résous rarement les solutions de manière unique. Il faut s'adapter au territoire, il faut s'adapter aux situations, donc c'est à géométrie variable. Donc les oasis de Pierre Rabhi, moi je trouve ça très intéressant. Maintenant, je suis ravi qu'on n'habite pas tous dans des oasis de Pierre Rabhi parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas envie. Après, le transhumanisme ou Elon Musk, il est très sympathique, mais il a l'air quand même sacrément barré. Je suis ravi qu'on ne vive pas tous comme lui parce qu'il doit avoir une vie un peu déjà très consommatrice en gaz à effet de serre et je le sens pas trop quoi en termes d'intérêt général. Il a l'air d'être plutôt branché intérêt privé. Mais bon, on peut se tromper. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des idées, ça on ne peut pas le nier. C'est un provocateur, etc. Mais il a des idées. Et donc, s'il pouvait les mettre au service de l'intérêt général et pour trouver des solutions à la transition, est-ce qu'elle souhaite techno, bah, comme le train à grande vitesse, là, le Hoop, je ne sais plus son nom, là.
Hyperloop.
Oui, Hyperloop, voilà, merci. Bon, bah, génial. Bah, qui peut refuser le fait d'aller plus vite et de consommer moins? Enfin, c'est extraordinaire. Non, moi, je trouve ça génial, ça. Ça, pourquoi pas? Après, comme tout, entre guillemets, progrès, ça posera d'autres questions. Si on devait se déplacer et faire 20 minutes pour faire un Avignon-Paris, c'est sûr que là, ça bouleverse un peu la donne. Mais bon, avant, on était à pied, après à cheval, en voiture. Pourquoi pas? J'ai envie de dire, peu importe. Mais là, si on parle d'écologie, est-ce que c'est vraiment un transport propre? Parce que c'est ça, là, sur le transport, c'est. Alors, le vélo reste, il me semble, le transport le plus, ainsi que la marche, le plus propre possible. Je crois que c'est dans les pays du Nord, ils sont 2/3 des déplacements sont faits à vélo. Donc je trouve ça super d'investir des milliards dans l'Hyperloop. Mais par contre, le plan vélo, on voit qu'on a du mal à sortir 400 millions. Donc c'est voilà, c'est ça, deux poids, deux mesures aussi. Donc commençons par faire ce qu'on sait faire, et ça n'empêche pas de faire des recherches pertinentes, hein, et d'imaginer le monde de demain. C'est ça aussi, d'un point de vue temporel, c'est penser à maintenant et penser à le plus long terme. Je viens de lire un article avec une tribune de Dominique Bourg qui invite à créer une assemblée citoyenne du futur qui se pencherait sur le long terme et les enjeux du long terme. Oui, il a raison, c'est ça. Il faut travailler local, global, court terme, moyen terme, long terme. Enfin, c'est la gestion de l'espace-temps participatif avec les citoyens, les différents acteurs, les équilibres dont je parlais tout à l'heure.
Et en t'entendant parler, je me disais, mais finalement, est-ce que ce qui horripile peut-être un peu parfois les écologistes à la Pierre Rabhi, entre guillemets, c'est pas le fait que la technologie est associée à un truc où l'humain n'est pas assez présent finalement?
Si, 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 bien sûr, parce que c'est ça, c'est le côté déshumanisant. Moi, Pierre Rabhi, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à plusieurs reprises, j'ai interviewé, qui est très, très aimable et quelqu'un de vraiment, vraiment une bonne personne. Oui, là, c'est ça. Après, c'est aussi générationnel, il a 80 ans. Nous, enfin, voilà. Moi, j'ai envoyé mon premier mail à 17 ans, mon fils 7 ans, et Pierre Rabhi 60 ans, quoi. Donc, on n'est pas dans la même génération aussi face aux technologies. Je pense que dans les colibris, il y en a qui utilisent plein de nouvelles technologies. On les voit très dynamiques sur les réseaux sociaux. Donc, on n'est pas dans l'anti-technologie, mais effectivement, le problème, il est quand l'humain est en arrière-plan.
Et ça, tu le vois, toi, dans les jeunes générations là, de gens voilà, qui s'intéressent à ton magazine, qui le lisent, est-ce que tu as l'impression que ce sont des gens qui sont bah, plus réconciliés avec cette techno, ou alors tu sens plutôt, toi, ce côté rejet un peu de la techno pour le retour à des choses plus simples, de décroissance, comment tu le perçois, toi, aujourd'hui, ça?
On les voit dans nos conférences, les jeunes, et dans les facs, là, puisqu'on fait beaucoup de conférences dans des universités. Ils sont très, très actifs sur les réseaux sociaux, dans les combats à ANZ COP21, pour le climat, etc. Donc, non, non, pas du tout problématique vis-à-vis des réseaux sociaux. Non, ils sont nés avec, hein, ils adorent ça. Il y a les deux, hein, il y a les deux, on a vraiment les deux dans le public. Hein. On a à la fois ceux-là, mais on les a plutôt en conférence, ils lisent pas trop la revue papier, ils sont plutôt sur le net. Et la revue papier, c'est plutôt les actifs, plutôt les personnes plus âgées. Voilà, c'est ce qui fait sens aussi d'avoir les différents outils.
Dans les tuyaux, entre guillemets, est-ce que vous avez des projets particuliers?
Bah, là, pour terminer notre échange, je peux te parler du projet qui vient de se passer là le 15 mai dernier. C'était une première pour nous. On a lancé un nouveau format sur Internet. Ça s'appelle le Websone. C'était une émission d'1 heure et demie, donc un format long sur Internet, avec une personnalité. C'était Boris Cyrulnik, le neuropsychiatre. Et on a fait le choix d'être sur la plateforme Zoom, d'avoir donc Boris Cyrulnik en webcam depuis chez lui, d'avoir un plateau, type plateau TV, avec Magali Chouvion, dont j'ai déjà parlé, qui est l'autre cofondatrice, qui a animé l'émission. Donc un échange d'abord avec Boris Cyrulnik pendant environ 20 minutes, format grand entretien, et ensuite des questions d'internautes sur Zoom modérées par notre magazine. Et tout ça rediffusé sur une télé en même temps, en live. Donc la télé, c'était TBO, le groupe de Telegram. Donc c'était un pari, quoi, de faire du live déjà, 100%, pendant 1 heure et demie, et avec une télé en plus, c'est-à-dire que si on se ratait, on ratait tout là. Bon, ça a fonctionné. C'était un peu fou mais on est très content de l'avoir fait. J'espère qu'on va en refaire d'autres. Le web sonne vraiment sur le principe du téléphone sonne aussi.
Deux autres petites questions là. Toi, ton opinion sur l'impact des événements qu'on vient de vivre par rapport à la transition. Comment est-ce que tu le sens, toi? Est-ce que tu penses que ça va vraiment changer la donne?
Est-ce que je suis optimiste ou pas? C'est ça la question. Est-ce que ça va accélérer la transition? Le corona, franchement, j'espère, oui, j'espère vraiment. Peut-être en Europe, à l'échelle européenne, il y a un déclic qui est en train de se passer. On a vu la proposition franco-allemande, le Green New Deal, la mutualisation des dettes, la solidarité qui revient au cœur de l'Europe, qui avait été complètement zappée, hein, au profit d'une Europe libérale, ultralibérale, un peu complètement folle, qui illustre un petit peu la crise aussi dans laquelle on était, une espèce de crise du libéralisme. Et donc peut-être que là, oui, du point de vue européen, il y a un truc qui est en train de se passer. Peut-être qu'on est en train d'assister, si on va au bout de cette logique proposée là par la France et l'Allemagne, peut-être qu'on va créer vraiment un esprit européen et avec une logique de transition écologique. Là, ça, c'est mon espoir qui va ensuite irriguer sur les différents territoires grâce aussi à l'argent qui va être levé hein, pour pouvoir créer du changement. Et aussi parce qu'on s'est quand même rendu compte que pendant. Et là, il y a une pré-prise de conscience quand même, notamment en France. On s'est rendu compte que. À un moment, il faut aussi que les territoires ils puissent alimenter les gens sans que ça vienne de l'autre bout de la terre, qu'on puisse se fournir en masse, en produits de première nécessité, et donc relocaliser les productions, les produits essentiels. Donc ça, c'est un point sur lequel je pense qu'il va y avoir du changement. On parle beaucoup de résilience, comment créer des territoires résilients, c'est-à-dire des bassins de vie dans lesquels on va avoir justement des indicateurs construits permettre d'éviter de tels manquements en cas d'une nouvelle crise. Concrètement, l'autonomie alimentaire au plus, tout au plus, même au niveau énergétique peut-être, allez, soit rêvons. On n'y est pas encore hein, sur ce point-là. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Mais en tout cas, sur l'alimentation, je pense que c'est en train de changer puisque il y a eu une prise de conscience. Ça va changer. Et je vois aussi le secteur de l'agroalimentaire. Là, à un moment, sont l'agonie, donc ils vont devoir changer là. Je pense que ça va être un vrai déclencheur. La Commission européenne, la présidente là, elle semble déterminée d'aller au bout sur ces questions-là. Donc, ouais, je suis optimiste avec l'Union européenne. Après, concernant les autres pays du monde, beaucoup moins là, beaucoup moins. Quand les États-Unis, on en reparlera après les élections présidentielles, et la Chine, bah pour le coup, un modèle techno qui gère complètement et complètement antidémocratique, et par contre qui va résoudre à terme les problèmes écologiques, mais en créant des dictatures, enfin en asseyant une dictature, oui, ça c'est un avenir assez sombre.
Ouais, bah écoute, enfin, je ne sais pas si tu as suivi la fameuse webconf là, qui a eu lieu récemment de par le gouvernement, Diagnostic commun. Mais les feedbacks, hein, il y a eu plusieurs assos, plusieurs organismes qui ont fait des feedbacks sur des études à grande échelle qu'ils ont menées justement pour évaluer l'impact du Covid, notamment sur les questions écologiques. Et tu sens plutôt bien les choses parce que c'est exactement ce qui est ressorti finalement, c'est que. Au niveau européen, cette question de l'environnement, de l'écologie était sans doute un des meilleurs points communs finalement entre les Européens,
C'est
un
ça,
truc sur
c'est ça.
lequel il y avait un consensus assez
Ça
général.
va ressouder.
Voilà. Et que c'est ça, que la production locale effectivement était une des grosses priorités et un des trucs sur lequel on sentait qu'il y avait le plus d'impact du Covid, avec la question quand même de se demander est-ce que c'est pas juste un effet ponctuel parce que finalement plein de gens n'avaient pas trop le choix donc ils. Oui, il y avait aussi ce constat qui était un petit peu moins optimiste, qui était de dire que finalement, il y a très peu de gens qui n'étaient pas déjà fortement sensibles à la transition qui ont été convertis par la crise. En réalité, c'est des gens qui étaient déjà dedans, tu vois, dans ces mouvements, dans ces questions-là, qui ont accentué leurs efforts et accentué leur démarche, quoi, mais pas vraiment de nouveaux convertis finalement.
Après, sur les changements de boulot, je pense qu'il va y avoir des surprises aussi beaucoup. Il y en a qui vont changer d'orientation, il y en a qui vont avoir envie de créer leur entreprise. Je pense que ça aura quand même mis des petites graines dans la tête de pas mal de gens. Je ne parle pas de ceux qu'on ne peut pas changer, mais je pense qu'il y a les indécis, ça va en faire basculer peut-être un paquet.
Y avait une question qui est super intéressante, je la pose rapidement. Une personne qui disait que une des difficultés pour elle aujourd'hui de cette transition, c'était cette partie de la population qui finalement se sent très peu concernée par ces problématiques-là, pour des raisons de rupture sociale, de rupture économique. Cette question-là, ces populations-là qui finalement sont peu sensibilisées à ces sujets-là et donc ne sont pas du tout dans la transition, comment est-ce que tu penses qu'on peut l'aborder ? Est-ce que sans transition, vous avez des actions de ce type ? J'en sais rien, d'aller distribuer vos magazines dans certaines cités, par exemple, dans certains endroits un peu défavorisés. Enfin, comment...
On fait des conférences dans des quartiers prioritaires de la ville, notamment avec des collectivités qui nous y invitent. Ça, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. On a fait venir Rob Hopkins, le fondateur du mouvement mondial des villes en transition, près de Lyon, là, dans un quartier prioritaire. Et oui, donc là, c'était avec des prix attractifs, avec des tarifs pour les personnes des minima sociaux, etc. Donc ça, on essaye au maximum. Après, je pense que comment les collectivités peuvent, ou comment, on va dire, on peut essayer d'ouvrir au maximum le champ, c'est que la transition, elle doit se faire, certes, écologique. On parle beaucoup de transition écologique, en tout cas dans la loi, mais elle doit être écologique et sociale. L'un, c'est comme les deux faces d'une même médaille. Si tu bosses pas sur les deux côtés, ça marche pas. Si c'est un truc de nanti ou de riche ou d'éduqué uniquement, ça coince et ça coincera. Ça sera encore une inégalité de plus. C'est déjà le cas. Donc c'est là la réponse. Les réponses, c'est l'école, les associations sur le terrain. J'en connais. On prépare un dossier sur la démocratie alimentaire justement dans le numéro de cet été. Et là, c'est vraiment ça. C'est comment permettre à tout un chacun, même à celles et ceux qui habitent dans les quartiers prioritaires, et bien de manger bio, par exemple. Donc ça, c'est une vraie question. Voilà, on est dans l'écologique, dans le social et dans l'économique, parce qu'il faut aussi que ça puisse tourner d'un point de vue économique. Donc, les solutions, elles existent. Hein, encore une fois, là-dessus, maintenant, il faut les mettre en place et leur donner une amplification à grande échelle.
Écoute, et dernière question, est-ce que tu as un bouquin que tu pourrais... conseiller aux auditeurs sur toutes ces questions-là, un bouquin qui t'a particulièrement marqué.
Lequel je vais citer. Le bouquin qui s'appelle Effondrement, il m'avait particulièrement marqué, c'était il y a plus d'une dizaine d'années. C'est un Américain qui a écrit ce bouquin. Donc c'est un bouquin qui s'appelle Effondrement. C'était il y a déjà pratiquement 12-13 ans, je pense. Donc j'essaie de me rappeler l'auteur, mais... Et c'est Jared Mason Diamond, voilà, ça y est, ça me revient. C'est un livre qui est édité chez Babelio et qui, comment les sociétés décident de leur disparition, au contraire, de leur renaissance. C'est voilà, ça c'est un livre qui m'a marqué.
Bon, bah super, bah écoute, merci pour le conseil et merci pour le temps que tu as accordé à ce petit échange très intéressant et bravo pour les actions de Sans Transition, c'est vraiment un super projet. On lui souhaite une longue vie et qui permette à de plus en plus de personnes d'être sensibilisées à ces questions-là pour que ça puisse changer durablement.
Parfait, bah écoute, je te remercie.